A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. On décrypte, on débat autour de l'actualité ce soir avec Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir.
Ancien patron du RAID, à vos côtés Karima Bric. Bonsoir Karima.
Bonsoir.
Bonsoir Harold Diman, spécialiste des questions internationales. On va revenir dans un instant avec vous sur l'attentat qui a eu lieu ce soir à Jérusalem-Est. C'est l'une des informations principales de cette soirée. Bonsoir Philippe Guibert.
Bonsoir.
Enseignant, consultant. Et à votre gauche, Jean Messia. Bonsoir Jean, président de l'Institut Apollon. On va vous entendre dans un instant, mais avant, on fait le point sur les dernières actualités avec vous, Isabelle Piboulot.
À la une, attentat à Jérusalem-Est, une fusillade près d'une synagogue a fait au moins 7 morts lors des prières du début du Shabbat. Plusieurs blessés par balles sont à déplorer, certains dans un état grave. L'assaillant a ouvert le feu après 20 heures dans le quartier de Neve Yaakov. Selon la police, il s'agit d'un Palestinien de 21 ans. Il a été abattu par des policiers après avoir pris la fuite à bord d'une voiture. Journée internationale des victimes de l'Holocauste, la chef de la diplomatie française a fustigé les propos consternants de Vladimir Poutine. Une provocation indigne selon Catherine Colonna qui réagissait à un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé la présence, je cite, de néo-nazis en Ukraine contre lesquels se battent les soldats russes. La pandémie de Covid-19 est-elle encore assez grave pour mériter le niveau d'alerte maximale de l'OMS? Un comité d'urgence s'est réuni pour trancher. Le directeur de l'organisation a fait part de sa préoccupation face au nombre croissant de décès hebdomadaires signalés dans le monde. Le plus haut niveau d'alerte de l'OMS avait été déclenché il y a près de 3 ans, jour pour jour. Et puis en France, fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février. C'est ce qu'annoncent les syndicats en plus d'un rassemblement devant le Sénat. Ils réclament à la Première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation.
Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera pour le point sur l'actualité à 22h30. Soir, info week-end au sommaire ce soir. Jérusalem-Est visée par un attentat. 7 personnes au moins ont été tuées ce soir et plusieurs blessés par balle près d'une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. L'assaillant a été neutralisé. Les États-Unis condamnent un acte terroriste épouvantable. Les dernières informations dans un instant avec notre correspondante sur place. Les chiffres de l'immigration en hausse en France, notamment les demandes d'asile et les régularisations de clandestins. La question de la maîtrise des flux migratoires encore complexe. Pour quelle raison, à quelques jours de la présentation du projet de loi immigration en Conseil des ministres, on en parle dans cette émission avec nos invités. Et puis, plusieurs maires, Anne Hidalgo en tête, ont annoncé la fermeture de leur mairie pour la journée de grève de mardi prochain contre la réforme des retraites. Il s'agit de permettre aux agents municipaux de participer à la mobilisation, mais aussi de protester eux-mêmes contre cette mesure. Alors est-ce que cette action pose un problème de neutralité, comme le pense le ministre du Travail? On en débat avec nos invités ce soir. On va marquer une très courte pause et dans un instant, je vous le disais, on va revenir sur cet attentat à Jérusalem-Est. On va retrouver notre correspondante sur place et puis avec vous, Harold Diman. On verra le contexte dans lequel a eu lieu cette attaque. Restez avec nous, à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Karima Bric, Jean Messia, Philippe Guibert et également Harold Diman avec nous justement pour parler. Vous le voyez, ces images en direct sur CNews. Cette terrible fusillade contre une synagogue à Jérusalem-Est, on dénombre au moins 7 morts à cette heure, plusieurs blessés par balle également. L'assaillant, lui, a été neutralisé. Les États-Unis ont condamné une apparente attaque terroriste épouvantable dans les termes les plus forts. On va tout de suite prendre la direction de Jérusalem, justement, pour retrouver notre correspondante sur place, Nathalie Sosma-Ofir. Nathalie, bonsoir, merci d'être
bonsoir.
En liaison avec nous. Racontez-nous qu'est-ce qu'on sait des faits à cette heure-ci.
Alors, le bilan provisoire, pour le moment, fait état de 8 Israéliens tués, de plusieurs blessés, comme vous l'avez dit. Le premier ministre israélien Netanyahou est sur les lieux en ce moment même. Cet attentat a été perpétré à l'arme automatique, hein, comme près d'une synagogue dans un quartier de Jérusalem-Est, pendant les prières de l'entrée du Shabbat. C'est un Palestinien du camp de réfugiés de Shouafat, hein, non loin de là, qui a ouvert le feu. Il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Pour l'heure, d'après les services de sécurité, il n'y aurait pas d'autres suspects en fuite. Le terroriste a donc sans doute agi seul. Cet attentat intervient dans un contexte de vives tensions. Il y a quelques heures, l'armée israélienne ciblait des positions du Hamas dans la bande de Gaza, des représailles au tir de 6 roquettes hier soir en direction du sud d'Israël. Hier matin, c'était 9 Palestiniens qui étaient tués dans un échange de tirs lors d'un raid israélien dans la ville palestinienne de Jenin, en Judée-Samarie, une opération destinée, d'après Jérusalem, à contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. Alors, depuis hier, plusieurs médiateurs égyptiens et européens tentaient de désamorcer les tensions, en vain. L'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Alors, cette décision palestinienne devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui doit arriver en Israël et dans les territoires palestiniens dans 3 jours. Une visite à l'origine destinée à gérer des affaires courantes, mais qui sera sans doute consacrée à gérer un retour au calme. Ici, tous les médias israéliens parlent d'un véritable massacre. Le niveau de vigilance a été relevé dans la capitale, mais aussi à travers tout le pays. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur ce terrible attentat.
Nathalie, vous nous dites ce soir au moins 8 morts, hein, c'est ce que vous nous annonciez tout à l'heure.
8 morts pour le moment, dont un père et un jeune adolescent de 15 ans. Voilà pour l'instant le bilan qui reste encore très provisoire, puisqu'il y a quand même des blessés qui sont dans un état critique.
Précisez-nous sur le lieu de l'attaque, on parle de Jérusalem-Est. Dites-nous quel est ce quartier précisément qui a été visé
ce soir. Le quartier de Neve Yaakov, hein, où habitent évidemment de très très nombreuses familles juives, mais qui est effectivement proche du camp de réfugiés de Shouafat. Et l'on sait que dans ces quartiers, la violence, les tensions sont très très vives.
8 morts, donc 7 Israéliens plus l'assaillant ce soir.
Pour l'instant, on n'a pas de précision. Moi, j'ai 8 Israéliens tués. Le terroriste n'est en général pas dénombré dans le nombre des victimes.
D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Vous restez avec nous. Vous intervenez dès que vous avez du nouveau. À Harold Iman, on entendait dans la voix de Nathalie le contexte géopolitique délicat aussi ce soir.
Alors, pour comprendre... La zone de Neve Yaakov est à côté de ce que Nathalie appelle le camp de réfugiés de Shouafat. Mais tout cela est à l'intérieur de la ville de Jérusalem comme elle s'est constituée dans les années 1970. Donc on reste dans Jérusalem, on n'est pas à proprement parler dans ce qu'on appelle la Cisjordanie. Mais bon, c'est à débattre. Mais en gros, c'est l'idée. Et vous voyez toute la partie est, et en haut à droite, ça serait Neve Yaakov, juste à côté de ce camp de Shouafat, qui est connu comme l'endroit le plus dangereux de Jérusalem-Est. Est, c'est donc ce qui a été incorporé dans les années 70 dans ce qui est le grand Jérusalem d'aujourd'hui. Excusez pour toutes ces matrioshkas d'explications de poupées russes, mais c'est très important pour savoir la nationalité des gens en question. Sinon, le contexte, ça remonte au 3 janvier, lorsque le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, s'est promené sur, là aussi c'est chargé, le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Bon, en l'occurrence, ça a plu à son parti politique à lui, et ça a déplu... à une immense partie des Palestiniens, car il est plus ou moins admis qu'une personnalité du pouvoir israélien, juif, donc, ne doit pas aller sur ce lieu religieux s'il n'a pas une raison ou une invitation expresse. Ce qu'il a fait néanmoins, et si on remonte à 2004, c'est Ariel Sharon, Premier ministre, qui s'était promené à cet endroit, plutôt 2000, et ça avait déclenché une intifada, ça veut dire une révolte générale. Donc on se demande aujourd'hui s'il y a une révolte générale. Sinon, depuis le 3 janvier, donc, il y a eu des attaques de palestiniens qui étaient parfois des simples particuliers politisés ou des gens plus aguerris et des ripostes israéliennes. Et c'est allé en crescendo jusqu'à ce que les Israéliens tirent sur le camp de Jénine, d'où on préparait des attentats. Le camp de Jénine, c'est en Cisjordanie. Et ensuite, ils ont également tiré sur Gaza, qui est cette enclave, cette espèce de plage très, très peuplée. Et de là aussi, les mouvements Hamas et djihad islamique préparaient eux aussi des tirs sur Israël et sont tout à fait capables d'atteindre Tel Aviv s'ils le souhaitent. Et maintenant, ils se mettent même à tirer sur les avions. Donc leur armement ne cesse de se sophistiquer. Donc vous voyez, on est vraiment dans une pré-escalade caractérisée.
On a Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, également autour de ce plateau ce soir. Jean-Michel, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Finalement, un mode opératoire bien connu, un assaillant qui attend à la sortie de la synagogue, un terroriste armé et qui attend que les fidèles sortent.
Oui, un terroriste armé d'une arme automatique, donc une grande puissance de feu, des armes très puissantes d'une manière générale. On ne connaît pas l'arme, sans doute s'agit-il d'une Kalachnikov, mais avec puissance de feu importante. Et évidemment, à chaque fois qu'on a ce type d'attentat par ce qu'on appelle un mass murderer, c'est-à-dire un tueur de masse, bien l'effet de surprise est pour le tueur et pour celui qui agresse, évidemment. Et on voit que dans un pays où la riposte est assez rapide, hein, un pays comme Israël, la riposte est assez rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont armés, qui sont passés par l'armée et qui sont armés. Donc la riposte se fait assez rapidement. Et bien quand même, ce tueur, ce terroriste a eu le temps d'ouvrir le feu dans la foule et de faire 8 morts. Pour l'instant, espérons que ça ne s'aggrave pas, mais il y a des blessés graves. En réalité, quand la foule est compacte et vous tirez une rafale sur une foule, vous avez ce type de résultat-là, malheureusement. Et l'intervention policière dépend de la rapidité. Pour faire cesser le massacre, évidemment, c'est assez logique. Ça dépend de la rapidité des choses.
Alors il y a des réactions qui commencent à succéder, à commencer par une réaction américaine. On va écouter le porte-parole de la diplomatie américaine qui a réagi. Écoutez-le.
This is absolutely horrific.
C'est absolument épouvantable. Nos pensées, nos prières et nos condoléances vont aux personnes tuées dans cet acte odieux de violence. Nous condamnons cette attaque terroriste dans les termes les plus forts.
Terrorist attack.
Notre engagement envers la sécurité d'Israël reste inébranlable.
Alors Jean Messia, le porte-parole du Hamas, a déclaré que la fusillade était une riposte au raid de l'armée israélienne à Jénine, qui a tué 9 Palestiniens tués dans une opération de contre-terrorisme.
Il faut savoir ce qu'est le Hamas. Le Hamas est une organisation islamiste, ce sont des musulmans radicaux, est une organisation terroriste. Et effectivement, quand Israël riposte, vous l'avez dit, la riposte, ça veut dire qu'initialement, le Hamas tire des roquettes sur Israël, il tire des roquettes à l'aveugle sur des quartiers qui sont normalement très peuplés, enfin le plus peuplé possible, pour faire le maximum de dégâts possible. Donc Israël exerce son droit à l'autodéfense vis-à-vis de ça. Il y a deux questions, si vous voulez, qui se posent par rapport à ce qui se passe ce soir. C'est la question, évidemment, d'un conflit israélo-palestinien qui est inextricable. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant très longtemps, les Israéliens ont proposé aux Palestiniens des solutions de paix que les Palestiniens ont refusées. Aujourd'hui, avec la réislamisation de l'islam, en quelque sorte, la lutte politique des Palestiniens devient une lutte politico-religieuse. Et donc l'attentat qui a été perpétré, qui vient d'être perpétré à Jérusalem ce soir, il peut être rapproché de ce point de vue de l'attentat qui a eu lieu en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est menée contre ce que les islamistes appellent les judéo-croisés.
On va en débattre, on va en reparler, voilà. Philippe Guibert, on vous écoute dans un instant. On doit marquer une courte pause. On sera également en lien avec Simon Serussi dans un instant. C'est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Restez avec nous, l'attentat à Jérusalem-Est. On continue d'en parler dans un instant sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Karima Bric, Harold Diman, Philippe Guibert et Jean Messia. Et à la une de l'actualité ce soir, cette terrible fusillade contre une synagogue à Jérusalem-Est. On dénombre à cette heure au moins 8 morts, plusieurs blessés par balle. Vous voyez ces images en direct actuellement sur CNews. L'assaillant, lui, a été neutralisé. Les États-Unis, on l'entendait tout à l'heure, qui ont condamné une apparente attaque terroriste épouvantable dans les termes les plus forts. On va accueillir tout de suite Simon Cerussi. Simon Cerussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, qui est en liaison avec nous. Bonsoir. Merci de vous être libéré pour être avec nous sur CNews ce soir. Peut-être pour commencer, quelles sont les informations dont vous disposez de votre côté à cette heure ?
Bonsoir. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu une terrible attaque à Jérusalem ce soir dans le quartier de Neve Yaakov. D'après les informations que nous avons, il y a en ce moment 7 morts, 3 hommes, 2 femmes et 2 mineurs, plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Le terroriste a été neutralisé en s'enfuyant. D'après les premières informations, il proviendrait d'un quartier de Jérusalem-Est. Et donc des policiers qui se rendaient sur les lieux après le début de l'attaque l'ont neutralisé.
C'était une attaque qui était attendue ces derniers jours, ces dernières heures. En tout cas, il y avait un risque fort.
Complètement. Il faut comprendre que depuis maintenant presque 2 ans, il y a des attaques permanentes en Israël contre des civils, contre des militaires aussi, qui proviennent donc de Cisjordanie. Et c'est la raison aussi pour laquelle nos forces de sécurité sont activées en permanence. Vous savez, on fait le lien avec l'attaque, avec l'opération de Tzal de ce matin, dans laquelle plusieurs combattants du djihad islamique ont péri. Si cette opération n'avait pas eu lieu, il y aurait eu 2 attaques aujourd'hui. Cette opération a visé à neutraliser ce qu'on appelle une ticking bomb, c'est-à-dire des terroristes qui sont sur le point de commettre une attaque, et donc l'armée rentre pour les neutraliser, pour les essayer de les arrêter, et s'ils ne sont pas prêts à se rendre, donc à les neutraliser, afin de permettre à ce que cette attaque n'ait pas lieu, et donc à sauver des vies de civils israéliens. C'est pour ça que nos forces de sécurité sont sur le qui-vive en permanence, agissent en permanence, justement pour empêcher ce genre d'attaque. Malheureusement, elles ne peuvent pas être présentes à tout moment et arrêter tous les auteurs. Et malheureusement, ce soir, il y en a un qui a réussi donc à commettre ce terrible attentat.
Est-ce qu'il y a une peur d'escalade, un risque, la peur d'un risque d'embrasement ce soir ?
Bien sûr, bien sûr. C'est une attaque extrêmement violente. Le bilan est très très dur. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de bilan aussi lourd. On parle de civils israéliens qui sortaient de la prière du vendredi soir, du Shabbat. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des policiers. Il y a des mineurs parmi les gens qui ont été tués. Les forces de sécurité israéliennes vont maintenant intervenir pour appréhender toute personne qui est impliquée dans cette attaque et continuera à agir, et je le dis ici de manière extrêmement claire, continuera à agir à n'importe quel endroit où il le faudra afin d'aller arrêter et neutraliser s'il le faut des terroristes et des combattants qui veulent s'en prendre à nos civils. Et donc nous voyons une recrudescence de ces attaques, un rythme plus élevé, des bilans très lourds, et donc oui, il y a réellement une peur de voir une escalade.
Simon Cerussi, vous restez avec nous. Harold Iman, qui est autour de ce plateau, a une question à vous poser. Il est 22h32. On va juste faire le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot et on revient tout de suite vers vous.
À Attentat à Jérusalem-Est, le chef de l'ONU condamne une attaque abjecte. Lors des prières du début du Shabbat, une fusillade près d'une synagogue a fait au moins 8 morts en comptant l'assaillant. Plusieurs blessés par balles sont à déplorer, certains dans un état grave. Un Palestinien de 21 ans a ouvert le feu après 20 heures dans le quartier de Neve Yaakov. Il a été abattu par des policiers après avoir pris la fuite à bord d'une voiture. Volodymyr Zelensky dénonce l'hypocrisie du comité international olympique et invite son chef à visiter Bakhmout, point chaud de la guerre avec la Russie. Le président ukrainien déplore que la neutralité n'existe pas sur le front, faisant référence à l'éventuelle réintégration d'athlètes russes et bélarusses au JO 2024 sous bannière neutre. Si tel était le cas, Kiev pourrait boycotter les Jeux olympiques de Paris. En Iran, au moins 55 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique une ONG de défense des droits humains. Certains pour motifs liés aux manifestations, d'autres pour infractions liées à la drogue. Le recours croissant à la peine de mort vise à répandre la terreur dans le pays. Au moins 107 personnes risquent toujours d'être exécutées en raison des manifestations.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 23h. Nous sommes toujours en liaison avec Simon Serussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On revient bien évidemment sur cette attaque terroriste à Jérusalem-Est. Je vous le rappelle, à 7h, 7 morts, sans compter l'assaillant lui aussi qui a été neutralisé. Une dizaine de blessés, des blessés par balle. Harold Diman, vous vouliez vous adresser à Simon Serussi.
Oui, Monsieur Serussi, est-ce que le fait que nous soyons le 27 janvier, c'est-à-dire le jour de commémoration de l'Holocauste, a pu jouer dans le timing de ces attentats?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne l'espère vraiment pas. Je ne l'espère sincèrement pas. Malheureusement, ce genre d'attaque arrive à n'importe quel moment, elles arrivent sous n'importe quel type de gouvernement en Israël, que ce soit des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite. Malheureusement, les organisations extrémistes palestiniennes, qui, je le rappelle, ne reconnaissent pas l'existence de l'État d'Israël, utilisent ces méthodes des attaques sanglantes contre les civils pour faire entendre leur voix à n'importe quel moment, tous les jours de l'année. Et c'est donc pour ces raisons que nous devons faire preuve de la plus grande fermeté, que nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté, à aller chercher les terroristes partout où ils sont, afin de protéger notre population, tout en continuant à discuter avec les éléments modérés chez les Palestiniens, et il en existe bien sûr.
Alors la police israélienne a qualifié cette attaque de terroriste, il y a quelques instants. Donc, Simon Serussi, vous le disiez, c'est aussi des victimes, des familles, des jeunes, au nombre de 7 ce soir, des blessés. Finalement, c'est tout un pays ce soir qui est meurtri.
C'est une attaque terrible. C'est une attaque terrible, uniquement des civils. Donc, je le rappelle, dans une synagogue, à l'entrée d'une synagogue dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem, d'après les premières informations, 3 hommes, 2 femmes et 2 mineurs qui ont été tués. On a d'autres blessés. Des femmes, des jeunes aussi, et c'est donc un traumatisme terrible, et c'est ce genre de bilan, ce genre d'attaque fait aussi remonter les souvenirs de la seconde intifada en Israël, lorsque l'on avait des dizaines de morts par mois civils dans des attaques terroristes terribles, et nous espérons que la situation se calme, mais j'ai du mal à voir comment cela est possible. Et encore une fois, je le répète, c'est important de le dire, nous ferons tout ce que nous avons à faire. Les forces de sécurité israéliennes vont agir afin d'interpeller ou de neutraliser tous les éléments terroristes qui préparent des attaques en ce moment et dans les jours à venir.
Avant de vous libérer, Simon Serussi, Philippe Guibert, enseignant consultant, qui est également avec nous autour de ce plateau, souhaitait vous poser une question.
Oui, bonsoir monsieur. Ma question était, est-ce que la visite du ministre sur l'esplanade des mosquées, du nouveau ministre de l'Intérieur, sauf erreur de ma part, est-ce que ça a contribué à renforcer les tensions à Jérusalem?
Je ne pense pas. On peut être pour ou contre cette visite, et c'est un sujet sur lequel on peut discuter, il n'y a aucun problème. Mais vous savez, Lors du gouvernement de Yair Lapid, il y a quelques semaines à peine, Yair Lapid qui a dit haut et fort à la tribune de l'ONU qu'il était pour une solution à deux États, un gouvernement qui avait pour la première fois dans l'histoire d'Israël un parti arabe, un gouvernement donc qui était extrêmement ouvert. Nous avons eu des attaques terribles. Je rappelle l'attaque d'Elad avec quatre civils qui ont été tués, les attaques en plein cœur de Tel Aviv dans des bars avec des jeunes civils qui se sont fait massacrer. Donc malheureusement, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément ici en Europe parce que c'est un contexte complètement différent. Mais en Israël, et malheureusement chez les Palestiniens, il y a des organisations radicales, c'est une idéologie qui est similaire à celle de Daesh, à celle d'Al-Qaïda, qui sont des islamistes et pour qui l'objectif est la destruction de l'État d'Israël. On ne parle pas d'occupation, on ne parle pas de colonie, on ne parle pas de ligne verte. Ces gens sont contre l'existence même d'un État israélien, d'un État pour le peuple juif, et ils vont tenter de massacrer tous ceux qu'ils peuvent jusqu'au dernier moment. Et la seule manière de les en empêcher, c'est en étant ferme, c'est en étant fort, et c'est ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent, et c'est ce que nous continuerons à faire.
Jean Messia soulignait sur ce plateau tout à l'heure une résurgence de l'idéologie islamiste. Au fond, est-ce que selon vous, c'est cela que révèle également cette attaque ce soir ?
C'est possible, c'est possible. Nous le vivons au jour le jour depuis de nombreuses années, et cette résurgence, pardon, nous la voyons depuis à peu près 2 ans, même si les attaques n'ont jamais vraiment cessé. Et oui, en effet, c'est un des éléments, et c'est très problématique, et nous devons y faire face.
Jean-Michel Fauvergue souhaite vous poser une question. Simon,
oui, vous avez dit tout à l'heure que la tension montait depuis quelque temps déjà, et que vous attendiez à des actions. Est-ce qu'il y avait eu des mesures particulières en termes de sécurité intérieure pour surveiller en particulier les lieux de prière?
Vous savez, le contexte israélien est très particulier. Il y a vraiment des mesures de sécurité partout, en permanence, depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui peut choquer pour les touristes quand ils arrivent en Israël. D'ailleurs, on est contrôlé à l'entrée des centres commerciaux. Il y a des soldats armés un petit peu partout, qui sont des jeunes qui sortent du lycée, hein, comme ceux qu'on voit en France. Donc, nous sommes sur le qui-vive en permanence. Et ce qu'on ne sait pas forcément aussi, c'est que pour une attaque qui réussit, il y en a des dizaines, et je n'exagère pas, des dizaines qui sont stoppées avant. Et donc, ces derniers jours, il y a eu énormément d'attaques qui ont été stoppées. Je rappelle l'opération à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, il y a quelques heures à peine, où plusieurs combattants du djihad islamiste palestinien ont perdu la vie. C'était une opération qui avait pour but d'empêcher une attaque qui était en train de se préparer, qui était en train d'être lancée vers Israël. Donc, malheureusement, nous sommes sur le qui-vive en permanence, nous arrêtons des attaques en permanence, mais il arrive que les forces de sécurité ne soient pas prévenues ou laissent quelqu'un passer entre les mailles du filet, et c'est ce qui s'est passé ce soir.
Un grand merci, Simon Cerussi, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage ce soir en direct sur CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous, Karim Abrik. On a bien compris ce contexte explosif ce soir après cet attentat. Est-ce qu'on peut craindre effectivement un risque d'embrasement? En tout cas, tous les voyants sont au rouge.
Ben oui, absolument. Je pense qu'on peut craindre malheureusement cet embrasement, et c'est pour ça qu'on va devoir se poser la question éventuellement des mesures pour essayer de diminuer, en fait, pour aller vers une désescalade, même si en ce moment on est plutôt dans cette réaction, et c'est normal, c'est extrêmement choquant ce qui vient de se passer, c'est extrêmement violent. On voit vraiment des victimes innocentes qui sortent de la la prière qui se font tuer de cette façon. Donc, c'est vraiment extrêmement troublant. Et d'ailleurs, je regardais ce que disait le chef de la police israélienne. Hein, il déclarait à la télévision, il disait c'est une des pires attaques de ces dernières années. Donc, on voit que la tension est extrême, et particulièrement depuis effectivement à peu près 36 heures. Et c'est toujours un peu ça, cette fameuse logique de l'embrasement. C'est aussi de tomber toujours dans cette vengeance d'un côté, d'un autre côté, et le tragique qui revient, l'histoire qui se répète sans cesse. Et on se demande après, comment arriver vers ces fameuses mesures d'apaisement. Je sais que c'est le chef de la diplomatie américaine qui doit se rendre en début de semaine pour essayer de voir, quelle négociation sera possible ou quoi que ce soit. Mais d'ici là, effectivement, je pense qu'on est vraiment dans cette réaction, dans ce choc, et on essaie certainement d'éviter que d'autres attaques arrivent, parce que vous l'avez dit aussi, c'est peut-être pas effectivement la journée, c'est comme ça aujourd'hui, mais reste quand même que c'est symbolique, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, alors ça résonne effectivement très fort aujourd'hui.
Effectivement, Karim, on va aller dans un instant voir Nathalie Sosma-Ophir, vous nous ferez un point sur le contexte géopolitique également, Harold. Mais avant, on va entendre Jean Messia et Philippe Guibert.
Oui, je crois que c'est en fait un conflit assez asymétrique, si vous voulez, parce que d'un côté, vous avez effectivement l'armée israélienne et la police israélienne qui neutralisent des combattants qui sont identifiés comme tels, des combattants, voire des djihadistes, qui envisagent de faire des opérations terroristes en Israël. Alors évidemment, d'un côté, vous avez aussi des Palestiniens qui instrumentalisent les familles, les enfants, etc., et donc ça provoque parfois des victimes dont se servent ensuite les Palestiniens pour dire voilà, on tue nos enfants, etc. Mais je dirais que de l'autre, les Palestiniens, enfin les terroristes palestiniens, le Hamas, etc., ils ne s'attaquent pas uniquement à des soldats israéliens ou à des policiers israéliens. Ceux qui sont morts ce soir dans cet attentat abject, ce sont des femmes et des enfants. Donc on ne s'attaque pas à des civils, on ne se venge pas sur des civils. Enfin, il y a des lois à la guerre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une mentalité, un état d'esprit. Quand l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza et effectivement provoque des dégâts humains ou matériels, vous n'avez pas du côté israélien des gens qui jettent des feux d'artifice, qui se réjouissent, qui applaudissent, qui sortent dans les rues en se réjouissant de la mort de personne. Alors que le contraire n'est absolument pas vrai. Ce soir, à Gaza, vous avez de la liesse, etc., dans certaines rues. Donc, il y a, si vous voulez, une haine inextinguible d'un côté. Le porte-parole de l'ambassade d'Israël le rappelait à l'instant. C'est quand même assez asymétrique. C'est que d'un côté, il y a une lutte contre l'existence même de l'État d'Israël. Ils ne sont pas dans une optique d'obtenir une ouverture de négociation pour avoir effectivement un plan de paix. Ils sont dans une optique de bouter les Juifs à la mer. Donc à partir de là, il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de solution possible. Ce conflit est inextricable.
Conflit inextricable, pas de solution possible. Et la peur d'un embrasement, Philippe Guibert, ce soir?
Oui, je préfère être prudent, moi, oui. Par rapport à un attentat abominable, effectivement, qui vient de se dérouler il y a quelques heures. Conflit inextricable, effectivement, ça fait quelques décennies qu'il est inextricable. C'est un conflit asymétrique. Il l'est aussi dans l'autre sens, dans le rapport de force militaire entre Israël et puis les différents points palestiniens. Je serais plus prudent sur Gaza et le Hamas, même si c'est tout à fait possible. Parce que je ne crois pas, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'il y a encore eu une revendication.
Le porte-parole du Hamas qui a revendiqué, c'est selon le quotidien israélien Haaretz, a déclaré que la fusillade était une riposte au raid de l'armée israélienne à Jenin.
D'accord, donc c'est le Hamas, effectivement. Voilà, donc est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Forcément, quand on entre dans cette logique, il est clair qu'Israël ne peut pas rester... sans réagir après une tuerie de civils au commencement de Shabbat. C'est évident, ils sont dans leur droit le plus strict de répliquer.
J'apporte une précision, le Hamas qui n'a pas revendiqué cette attaque, qui a juste dit effectivement que c'était une riposte au raid de l'armée israélienne, sans pour autant le revendiquer.
Voilà. Soit c'est une récupération... Soit c'est une revendication, mais on attendra d'être...
À cette heure-là, on n'a pas cette précision, effectivement.
Bon, voilà, donc
c'est pas un Anglais qui a commis l'attentat. Donc on connaît le mode opératoire,
il y a plusieurs groupes palestiniens, donc c'est pour ça qu'il faut...
Pour l'instant, effectivement, ils ne revendiquent pas, mais ils s'accommodent de ça, ils sont heureux de cette attaque.
Ils le récupèrent en le positionnant comme une réplique à l'attaque israélienne de ce matin. Donc risque d'escalade, Israël va être obligé de répliquer. Enfin, je ne conçois pas, mais je suis pas assez spécialiste de... Je ne conçois pas que l'État d'Israël, après avoir vu 7 civils tués lâchement et affreusement au début d'une prière de Shabbat, un vendredi soir, je ne vois pas l'Israël rester sans réaction.
Harold Diman, peut-être un point sur le contexte géopolitique. Ce que nous expliquait Simon Serussi, c'est qu'il y avait de fortes tensions, les tensions en tout cas de plus en plus fortes ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser un petit peu le contexte pour qu'on comprenne bien ce qui se passe sur place?
Oui, alors les Palestiniens se sentent en général, ceux qui sont politisés du moins, abandonnés par le reste du monde arabe de plus en plus. Et donc, ils ont une petite tendance à prendre leurs propres affaires entre leurs mains. Et vous prenez l'exemple des accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords qui ont lié Israël et les Émirats arabes unis, et Bahreïn, et après ça, le Maroc. Eh bien, ces accords ont été très mal vécus par les Palestiniens parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et voilà que le front arabe contre Israël se fissurait de partout. Donc ça les a également mis en chauffe. Et ensuite, évidemment, la visite sur le mont du Temple, esplanade des mosquées, par d'Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité, qui vient de l'aile la plus dure de tous les partis qui ont jamais gouverné en coalition dans l'histoire de l'État d'Israël, eh bien, ça ne pouvait pas faire autre chose que de alimenter les tensions extrêmes. Et évidemment, le Hamas et le djihad ne cessent de s'armer. Donc, quand la chose commence, soudainement, on découvre qu'ils ont beaucoup plus d'armes qu'on pensait. Et les Israéliens veulent frapper très fort pour dissuader. Mais voilà, c'est une espèce de course sans fin. Et dans le contexte, voilà, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, allait se rendre là-bas pour essayer de calmer les choses entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais il n'aura guère de chance parce que les Israéliens sont beaucoup plus faucons qu'il y a un mois. Et les Palestiniens sont beaucoup plus surexcités. Et les accords d'Abraham eux-mêmes sont légèrement en danger. Parce que les Émirats arabes unis et Bahreïn et le Maroc ne peuvent pas éternellement donner un blanc-seing au gouvernement israélien. Donc c'est vraiment le pire moment pour tout.
Merci Harold pour ces éclairages. Je vais vous poser la question, Jean-Michel Fauvergue, dans un instant, du travail qui doit être fait à présent. Il y a eu l'intervention et maintenant il va y avoir un travail d'enquête, on imagine. Vous allez nous éclairer sur ce point-là. On va voir les quelques réactions qui s'accumulent depuis cette fusillade à Jérusalem. Je vous rappelle qu'il y a fait 7 morts. La France en Israël, donc l'ambassade horrifiée par l'attaque terroriste qui a ciblé ce soir une synagogue, la plus meurtrière depuis des années, un acte d'autant plus ignoble qu'il a été commis en ce jour de commémoration internationale de la Shoah. 70 ans, c'est vrai, hein, on peut le souligner. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Autre réaction également ce soir, peut-être de politiques français qui ont réagi. Eric Ciotti, tout mon soutien au peuple israélien touché une nouvelle fois par une attaque terroriste à Jérusalem. L'assaillant a tiré sur des personnes de confession juive aux abords d'une synagogue, faisant 7 morts et plusieurs blessés. On va prendre la direction de Jérusalem-Est. Une autre
gauche a réagi ou pas ?
Christian Estrosi, tout mon soutien au peuple d'Israël après l'effroyable attaque terroriste contre la synagogue.
C'est pas un sujet de polémique.
Qui a fait au moins 7 morts, une ignominie qui a visé des juifs en plein Shabbat, ce jour de commémoration internationale des victimes de l'Holocauste. On verra au fur et à mesure de la soirée, effectivement, toutes les réactions. Pas de réaction pour répondre à votre question, Jean-Michel, pas de réaction.
Je ne sais pas, la gauche l'habitude de bondir en évoquant le retour des heures les plus sombres. Ils sont où, là ?
N'en faites pas un sujet de politique interne.
Ouais, je mais c'est pas... ça, non, ce n'est pas un sujet de politique interne. La gauche sait réagir au quart de tour quand il s'agit d'attentats prétendument d'extrême droite. Là, ils font les tweets avant que l'attentat ait lieu. Mais là, on ne les entend pas, bizarrement.
On verra. Est-ce que ce n'est peut-être pas le temps de la polémique ? Effectivement, Jean, on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, on scrute en tout cas de près les réactions ce soir, notamment sur les réseaux sociaux. On va prendre tout de suite la direction de Jérusalem-Est. On va retrouver Nathalie Sosma-Ofir, notre correspondante. Nathalie, quels sont les éléments sur cette attaque dont vous disposez à cette heure ? Il est 22h51. L'attaque a eu lieu aux alentours de 20h.
Eh bien, écoutez, pour le moment, le bilan qui reste encore provisoire, puisqu'il y a des blessés très gravement atteints, fait état d'au moins 7 Israéliens tués, 5 hommes et 2 femmes, dont 2 mineurs. Alors, cet attentat a été perpétré à l'arme automatique près d'une synagogue dans un quartier de Jérusalem-Est, le quartier Neve Yaakov. Ça s'est passé pendant les prières de l'entrée du Shabbat. C'est un Palestinien du camp de réfugiés de Shuafat, qui est vraiment proche de cette synagogue, qui est arrivé en voiture. Il a ouvert le feu, il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Tout semble indiquer qu'il est agi seul. Un attentat qui intervient, on le sait, dans un contexte de très vives tensions. Hier matin, l'armée israélienne avait effectué un raid dans la ville palestinienne de Jenin. 9 Palestiniens avaient alors été tués dans un échange de tirs. Pour Jérusalem, il s'est agi de contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. En représailles, 7 roquettes étaient tirées hier soir depuis Gaza en direction du sud d'Israël. Tsahal y avait riposté cette nuit en ciblant des cibles du Hamas dans l'enclave palestinienne. Alors depuis hier, plusieurs médiateurs égyptiens et européens tentaient de désamorcer les tensions. En vain, l'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Une décision bien sûr qui devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui arrivera en Israël et à Ramallah dans 3 jours. C'était une visite destinée à gérer des affaires plutôt courantes, mais elle sera consacrée bien sûr à gérer un retour calme. Ici, alors, tous les médias israéliens parlent d'un véritable massacre. Le niveau de vigilance a été relevé dans la capitale, bien sûr, mais aussi à travers le pays. Et dans les toutes prochaines heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou réunira ses responsables sécuritaires pour faire bien sûr un point sur la situation et décider de la réaction au terrible attentat qui ne pourra sans aucun doute pas être passé sous silence.
Merci beaucoup Nathalie Sosmaofir. Vous intervenez dès que vous avez de nouveaux éléments, bien évidemment. Jean-Michel Fauvert, et donc on a vu cette attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir déterminer maintenant pour les forces de police sur place ?
Oui, d'abord à signaler qu'il y a eu des attaques précédemment, évidemment, malheureusement d'ailleurs, en Israël, et c'était souvent des attaques par coup de couteau, donc très limitées en termes de victimes. Et là, immédiatement, effectivement, quand on a une attaque avec une arme automatique, ça prend une autre ampleur, avec beaucoup plus de victimes. Et ensuite, il va falloir, effectivement, pour répondre tout à fait à votre question, Olivier, il va falloir travailler sur... d'abord, il y a la scène de crime et l'identité judiciaire, qui va travailler énormément pour récupérer un certain nombre de choses sur place et travailler aussi sur les antécédents de celui qui a fait cet attentat-là. Sans doute quelques perquisitions aussi. Là, on nous dit que il est issu d'un camp à côté.
Oui, il vient du camp de Shuafat qui jouxte Neve Yaakov et qui est connu comme le camp le plus radicalisé. On dit camp parce que c'est des gens qui ne sont pas originaires de cet endroit. Ils ont été déplacés par les guerres, ils se sont retrouvés là. Mais en vérité, c'est un quartier, il n'y a pas de tente.
Donc sans doute, dans des conditions difficiles, donc faire quelques perquisitions pour voir s'il n'y a pas quelques complicités, si la chose n'avait pas été préparée avec des complices pour les interpeller aussi et les mettre hors d'état de nuire. Donc il y a un vrai travail à faire. Je voulais aussi signaler que n'oublions pas que malheureusement, le rôle d'un terroriste, c'est de terroriser la population. Que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit dans les pays d'Europe, les terroristes agissent tous de cette manière-là, de manière brutale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le territoire d'Israël, toutes les forces de sécurité, que ce soit les forces de l'armée et les forces de sécurité intérieure, concourt à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons connu ça aussi en 2015, 2016, 2017, quand nos armées frappaient au Levant, pendant que nos forces de sécurité intérieure travaillaient sur le territoire intérieur. Alors vous me disiez ce qui doit être fait. Il y a aussi les services de renseignement qui sont déjà sur le terrain et qui ont déjà pas mal de choses, mais qui vont continuer à travailler dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout ce prisme-là qui est important de souligner, et c'est important l'ensemble de ces composantes travaillent ensemble.
Et la France qui condamne, il y a quelques minutes, qui condamne l'effroyable attaque terroriste à Jérusalem-Est, selon donc le le ministère, on le disait, Jean Messia, une attaque d'autant plus terrible alors que le monde commémore les 70 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz.
Oui, alors ça, je pense que c'est un élément qui évidemment touche beaucoup en Occident, parce que c'est une commémoration qu'on fait. Ça touche beaucoup évidemment les Israéliens eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que l'auteur de l'attaque, ni même les organisations qui l'inspirent, aient choisi spécifiquement cette date, mais en tout cas, les faits sont les mêmes. Et j'allais dire que cette attaque est effrayante, même si elle a été commise par un Palestinien, mais les attaques précédentes qui ont eu lieu sous le gouvernement précédent, rappelons-le, étaient des attaques commises par des Israéliens, des Arabes israéliens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment la menace terroriste qui provient des Palestiniens aux alentours, mais il y a aussi la menace terroriste interne, puisqu'il y a une population arabe-israélienne qui est elle aussi traversée par des courants intégristes et dont un certain nombre de personnes sont passées à l'acte et ont tué, effectivement, pour le coup, leurs concitoyens. Pas leur corps religionnaire, pour le coup, mais leurs concitoyens. Donc Israël est placé sous une double menace, une intérieure et une autre qui est immédiatement intérieure, sans être... à l'intérieur des frontières internationales d'Israël.
Et toute la difficulté pour les services de renseignement d'identifier ces personnes.
Oui, tout à fait. Jean a raison dans ce domaine-là. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez dans votre propre population des gens qui sont capables de faire le djihad, qui est de faire des attentats, et nous connaissons ça en France, et d'autres pays européens le connaissent, et c'est toute la difficulté d'essayer de les voir assez tôt et de faire en sorte d'éviter ces attentats-là. C'est, j'allais dire, beaucoup plus facile. C'est pas le mot qui convient, mais les services de renseignement, à partir du moment où ça vient de l'étranger, ont beaucoup plus de facilité à travailler, à intercepter, à avoir du renseignement opérationnel qu'ils partagent avec leurs homologues étrangers. Donc ça, y a des gens. Si ça se fait immédiatement... à l'intérieur du pays, par un national qui est à l'intérieur du pays, qui prend une Kalachnikov et qui va rafaler dans une synagogue ou dans un dancing ou dans n'importe quel endroit, eh bien c'est difficile au départ d'avoir les signes précurseurs de cet attentat-là.
Alors on parlait des réactions. Une nouvelle réaction à l'instant, celle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Tout mon soutien aux victimes de cette odieuse attaque terroriste contre une synagogue de Neve Yaakov. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Vous vouliez réagir, Philippe Guibert?
Oui, non, je voulais réfléchir à la réaction israélienne, parce que, comme nous l'a dit tout à l'heure le porte-parole de l'ambassade,
Simon Serussi,
c'est une attaque qui n'a pas beaucoup de précédents récents dans une synagogue, à l'ouverture de Shabbat, qui est un moment extrêmement important dans la religion juive. Cette attaque touche vraiment au cœur d'Israël et au cœur de la société israélienne, parce que ça veut dire qu'une synagogue n'est pas à l'abri. Et donc pour les services israéliens, mais là je parle sous votre contrôle, Jean-Michel, ils doivent le vivre comme une forme d'échec, parce qu'ils ont mené ce matin une opération, non, je ne dis pas que c'est une responsabilité, mais ils doivent le vivre comme un échec, parce qu'ils mènent une opération ce matin pour désamorcer un attentat, et le soir même, ils ont un attentat à Jérusalem, dans une synagogue, au moment du début de Shabbat. Et pour eux, ça doit vraiment être une blessure profonde.
Je peux vous garantir que pour tout policier, toute force de sécurité, à partir du moment où il y a un attentat qui se passe sur un territoire national, c'est effectivement... On le ressent comme au fin fond de nous, comme un échec. Mais il faut quand même avouer une chose, c'est qu'on ne pourra jamais, dans aucun pays, on ne pourra jamais passer au travers d'un attentat qu'on n'aura pas vu, qui sera décidé au dernier moment, etc. Donc effectivement, c'est une position d'échec, mais l'échec existe dans ce métier.
On ira refaire un tour du côté de Jérusalem pour savoir si la situation a évolué sur place dans un instant. Il est 23h passé de 1 minute. On fait un point sur les dernières actualités avec vous, Isabelle Piboulot. Et on continue de parler de cette terrible attaque, cet attentat près d'une synagogue à Jérusalem-Est. À vous, Isabelle Piboulot.
Attentat à Jérusalem-Est, les condamnations internationales s'enchaînent. La France condamne une effroyable attaque terroriste. Le chef de l'ONU, lui, une attaque abjecte. Une fusillade près d'une synagogue a fait au moins 8 morts en comptant l'assaillant. 10 blessés par balle sont à déplorer, certains dans un état grave. Un Palestinien de 21 ans a ouvert le feu après 20 heures avant d'être abattu par des policiers. Joe Biden s'est entretenu avec la mère et le beau-père de Tyre Nichols. Le président américain leur a fait part de ses condoléances et a salué leur courage et leur force. L'afro-américain de 29 ans est mort 3 jours après avoir été passé à tabac par des policiers noirs. Les États-Unis s'apprêtent à dévoiler une vidéo de l'arrestation qui avait eu lieu le 7 janvier à Memphis dans le Tennessee. Dans le reste de l'actualité, en France, fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février. C'est ce qu'annoncent les syndicats. En plus d'un rassemblement devant le Sénat, ils réclament à la Première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation. Et puis une note de sport pour terminer. L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour la finale du mondial en s'imposant 31 à 26 face à la Suède. L'équipe championne d'Europe a été battue à domicile à Stockholm. Les Bleus, 6 fois champions du monde, affronteront le Danemark, double tenant du titre, ce dimanche.
Les Palestiniens sont un peu seuls, quoi.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Week-end, toujours avec Jean-Michel Fauvert, Karim Abric, Harold Iman, Philippe Guibert et Jean Messia. On continue de parler de cet attentat contre une synagogue à Jérusalem-Est. Je vous le rappelle, on dénombre à cette heure au moins 7 morts, l'assaillant également neutralisé. 10 dizaines de blessés, des blessés par balle. On va prendre la direction tout de suite de Jérusalem-Est, de Jérusalem, pour retrouver notre correspondante sur place, Nathalie Sosma-Ophir. Nathalie, bonsoir, vous êtes donc sur place. Il est un peu plus de 23 heures. Qu'est-ce que l'on a comme élément concernant cette attaque qui a eu lieu aux alentours de 20 heures, hein. C'est bien cela ce soir?
Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, pas d'éléments nouveaux. On sait que le bilan fait état d'au moins 7 Israéliens tués, 5 hommes, 2 femmes, 2 mineurs. Un bilan, bien sûr, encore provisoire, étant donné que plusieurs blessés se trouvent dans un état grave. Alors, ce que l'on sait de l'attentat, c'est qu'il a été perpétré à l'arme automatique près d'une synagogue. Ça s'est passé dans un quartier de Jérusalem-Est pendant les prières de l'entrée du Shabbat. C'est un Palestinien, un jeune Palestinien de 21 ans, du camp de réfugiés de Shuafat, donc très proche du quartier Neve Yaakov où a été perpétré l'attentat, qui a donc commis cet attentat. Il est arrivé en voiture, il a ouvert le feu, il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Tout semble indiquer ce soir qu'il a agi seul. Un attentat qui intervient, on le sait, dans un contexte de très vive tension. Hier matin, l'armée israélienne avait effectué un raid dans la ville palestinienne de Jenin. 9 Palestiniens avaient été tués dans un échange de tirs. Alors pour Israël, il s'est agi de contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. En représailles, hier soir, 7 roquettes étaient tirées depuis Gaza en direction du sud d'Israël. L'alerte rouge a même retenti à Ashkelon. Tsahal avait riposté cette nuit, avait ciblé des cibles du Hamas dans l'enclave palestinienne. Depuis hier, plusieurs médiations étaient en cours, une égyptienne, une européenne. Il s'était agi de désamorcer les tensions, alors en vain. L'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement, une décision qui bien sûr devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui arrivera en Israël et à Ramallah dans 3 jours. C'est une visite qui était destinée plutôt à s'occuper d'affaires courantes, mais elle sera bien sûr sans doute consacrée à gérer un retour au calme. Alors ce soir, les médias israéliens parlent d'un véritable massacre, un des plus graves attentats perpétrés en Israël depuis ces dernières années. Le niveau de vigilance a été relevé, bien sûr, dans la capitale, mais aussi à travers tout le pays. Dans les prochaines heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se réunira avec les responsables sécuritaires. Il va s'agir de faire un point sur la situation et, bien sûr, de décider de la réaction à ce terrible attentat qui ne pourra évidemment pas être passé sous silence. Voilà ce que l'on sait pour le moment. La situation est dynamique. On suit l'actualité.
Merci beaucoup, Nathalie. Vous restez avec nous. N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres éléments, Nathalie Sosma-Ophir. en liaison depuis Jérusalem. Alors Simon Serrucci, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, a réagi sur notre antenne il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter.
Depuis maintenant presque deux ans, il y a des attaques permanentes en Israël contre des civils, contre des militaires aussi, qui proviennent donc de Cisjordanie. Et c'est la raison aussi pour laquelle nos forces de sécurité sont activées en permanence. Vous savez, on fait le lien avec l'attaque, avec l'opération de Tsahal de ce matin, dans laquelle plusieurs combattants du djihad islamique ont péri. Si cette opération n'avait pas eu lieu, il y aurait eu deux attaques aujourd'hui.
Alors, on l'entendait, Harold Diman, un contexte très tendu, déjà depuis plusieurs jours, plusieurs mois, même plusieurs années, mais on a le sentiment qu'il s'est intensifié récemment.
Oui, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël qui est le plus faucon de l'histoire du pays. Et du moins, il y a des membres, dont le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, qui est vraiment qu'il y a de presque plus extrême. Donc, c'est tolérance zéro pour les manifestations palestiniennes, qui sont souvent assez militantes. Et il faut ajouter aussi que l'autorité palestinienne, parce qu'elle subsiste sous une certaine forme en Cisjordanie, a arrêté la coopération policière avec l'État d'Israël. Parce qu'ils ont beaucoup de policiers en nombre. C'est presque une façon de lutter contre le chômage ou de se faire une clientèle. On embauche. C'est presque pléthorique. Mais elle donnait des informations à Israël parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait des attentats, parce que ça pourrit la situation. Et l'autorité palestinienne, sous la houlette de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et Mahmoud Abbas, le président, ne voulait pas particulièrement cette issue. Mais voilà, ils ont dû briser pour leurs raisons politiques internes cette coopération. Donc les forces de sécurité israéliennes ont été un peu aveuglées. À quel degré, je ne saurais vous dire, mais ça n'a pas fait du bien à leur surveillance.
Philippe Guibert, Jean Messia, vous vouliez réagir au contexte politique. Je vous donne la parole dans un instant, mais Karim Abrik, vous soulignez un aspect qui était intéressant, c'est le jeune âge de l'assaillant qui a perpétré cet attentat ce soir, 23 ans.
Oui, en fait, je pense que pour l'instant, on va être prudent, mais de ce que j'ai lu, il a 21 ans. Donc,
21 ans, pardon.
Cette difficulté d'aller, quand vous dites, bon, par exemple, pour la sécurité, d'aller cibler des gens, les informations, le renseignement aussi, et on espère qu'il n'y ait pas effectivement cet embrasement, on espère un espoir, mais quand on voit que ce conflit, cette colère finalement se transmet presque de génération en génération, qu'il y a de la relève auprès de jeunes de 18, de 20 ans, et moi, c'est ce qui me frappe, c'est cette radicalité, cette violence extrême dans le geste, parce que c'est de sang-froid. On s'en va directement s'en prendre, mais avec une arme donc automatique. On s'en prend à des enfants, donc il y a vraiment quelque chose d'assez extrême, et aussi sur la proximité avec des lieux de culte, parce qu'on l'a vu ailleurs, pas juste dans ce conflit-là, mais ailleurs dans le monde. Je pense même en Nouvelle-Zélande, quand il y avait eu l'attentat à Christchurch, c'est encore un jeune qui s'approche donc d'un lieu de culte. Donc, pour revenir ici, dans ce qu'on a vu à Jérusalem, je trouve qu'il y a cette inquiétude. Et est-ce que c'est possible, à ce moment-là, avec le renseignement, de se rapprocher? Je veux dire, le risque zéro n'existe pas, mais comment fait-on pour se rapprocher, justement, de ces jeunes qui ont cette radicalité?
Ben, la difficulté... Puisque vous me posez la question, la difficulté, elle est là. Dans ce qu'on appelle le terreau endogène du terrorisme, c'est-à-dire ce qui se passe sur le propre territoire du pays, c'est difficile à un certain moment, à partir du moment où les personnes ne communiquent pas entre elles, où les futurs terroristes ne communiquent pas entre elles, et prévoient un attentat du jour au lendemain, c'est difficile d'avoir les signes annonciateurs et précurseurs de cet attentat-là. Alors après, si... il y a des échanges sur un certain nombre, des échanges numériques ou d'autres types d'échanges. Là, c'est le rôle des services de renseignement et Israël, c'est
très bien. Mais surtout dans un contexte de violence depuis, comme on dit, depuis 36 heures.
Et voilà, et c'est vrai que le jeune âge présumé de l'assaillant pose question et pose des interrogations. On va y revenir, on va avoir le temps.
On a les mêmes en France aussi.
On a les mêmes en France. Ils sont très jeunes, effectivement. Et ça pose aussi des questions derrière. Philippe Guibert, on nous parlait du contexte politique en Israël, et on s'interrogeait de savoir si ça pouvait ce contexte politique avait pu avoir un impact ou s'il pouvait justifier cet attentat ce soir. Jean Messier nous dit non.
Rien ne peut justifier un attentat de cette nature.
Oui, qu'est-ce que j'ai... Non, non, absolument pas. Rien merci d'avoir repris mes mots.
Mais disons qu'il y a un climat de tension qui a pu être attisé, notamment par la visite du ministre de la Sécurité sur le Mont du Temple, version israélienne, ou l'esplanade des Mossiers, version palestinienne ou musulmane. La vraie question politique est la réaction de ce nouveau gouvernement Netanyahou, excusez-moi. Alors, Benjamin Netanyahou est un homme d'expérience qui a gouverné en Israël, en tout, mis tout bout à bout, sans doute pas loin d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que son gouvernement et sa majorité sont composés, entre autres, de petits partis qui sont très minoritaires, mais qui sont extrêmement extrémistes, si j'ose dire. Mmh. C'est vraiment des partis extrémistes de droite à Israël, parce que Israël est dans une situation politique où ils ont un mode de scrutin proportionnel, où le seuil pour entrer au Parlement est, sauf erreur de ma part, 3,25%. Et donc des partis qui ne représentent pas grand-chose peuvent se retrouver à jouer un rôle important dans la constitution d'une majorité. Donc, c'est la première épreuve politico-militaire pour ce gouvernement qui a quand même été élu sur une ligne particulièrement dure. Et donc, la façon dont ils vont réagir, dont le gouvernement israélien va réagir, parce que je ne doute pas que le renseignement israélien, dans les heures ou les jours qui viennent, va trouver la responsabilité. Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que le djihad islamique? D'où vient précisément cette attaque? Je pense, connaissant l'efficacité des services israéliens, que la réponse, ils l'auront, je pense, dans les heures qui viennent. Mais quelle sera la réaction de l'armée de Tsahal, de l'armée israélienne, face à une attaque dont on répétait qu'elle était la plus meurtrière pour les Israéliens depuis 2 ans.
Et pour autant, il y a eu, vous le disiez, il y a eu d'autres attaques avant, c'est-à-dire depuis des années, ce conflit pour...
l'attaque la plus meurtrière.
Est-ce qu'on peut expliquer cet attentat aujourd'hui par rapport à la politique du gouvernement ou rien à voir?
Écoutez, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure est factuellement faux, puisque 2022 est l'année la plus meurtrière en Israël en termes d'attaques terroristes. Il y a eu 31 morts d'attaques terroristes et presque 130 blessés tout au long de l'année de 2022, alors même qu'au pouvoir, il y avait un gouvernement de gauche avec des partis arabes pour la première fois et même un petit parti islamiste qui participait à la coalition. Donc on ne peut pas expliquer cela par simplement changement de gouvernement. J'ajoute que si effectivement ce gouvernement a été élu, pourquoi il a été élu? Est-ce que vous avez analysé les causes de l'élection et du retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou et de la nomination de ministres dont Ben-Gvir? C'est tout simplement parce que le gouvernement précédent a totalement failli sur la problématique sécuritaire et il a failli, pas parce qu'il a évité, je dirais, des attentats des Palestiniens, c'est que les attentats, pour la première fois du coup, étaient massivement perpétrés par des Arabes israéliens, c'est-à-dire des citoyens israéliens, pas par des Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza, par des Israéliens. Et donc ça, c'est quelque chose qui a profondément choqué les Israéliens eux-mêmes, et c'est ça qui explique qu'ils ont voulu un gouvernement beaucoup plus ferme sur les aspects sécuritaires. Donc on ne peut pas, si vous voulez, on est face à des gens, en tout cas les terroristes islamistes, qui ne calculent pas finalement la nature du gouvernement israélien, la couleur politique du gouvernement israélien, ça ne les intéresse pas.
Vous faites un parallèle à ce qu'on a, nous, vécu ici en France.
Exactement. Ils sont en lutte contre l'ontologie et l'existence même de l'État d'Israël. Ils ne sont pas en lutte pour des questions politiques, ils ne sont pas en lutte, comme je disais tout à l'heure, pour ouvrir des négociations. Ils veulent la destruction de l'État d'Israël qui passe par la destruction du plus grand nombre de Juifs. J'ajoute qu'il y a un élément géopolitique qui se rajoute à cette situation et qui explique, là pour le coup, le raidissement des Palestiniens. C'est que, en fait, de plus en plus de pays arabes sont en train de signer des accords de paix ou ont signé des accords de paix avec Israël. Or, on sait très bien que les grands parrains financiers des Palestiniens pendant très longtemps, ça a été notamment les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Les Émirats Arabes Unis étaient le premier donateur aux conférences internationales de donateurs que j'avais personnellement suivies quand je représentais la France dans les territoires occupés. dans les territoires palestiniens. Et effectivement, aujourd'hui, les Émirats ont signé un accord de paix avec Israël et sans doute qu'il y a eu des concessions là-dessus. Donc les Palestiniens se raidissent parce qu'ils se sentent abandonnés dans un contexte géopolitique qui, il faut le dire, change en leur défaveur, puisque à partir du moment où Israël établit des relations, normalise ses relations avec les pays arabes, bah effectivement, les Palestiniens resteront les seuls à ne pas les normaliser. Donc ça leur pose question.
Autre réaction ce soir après cet attentat, la réaction de Yael Braun-Pivet, on va le voir à l'antenne ce soir. Le terrorisme a encore frappé aveuglément à Jérusalem. Mes pensées vont aux familles foudroyées et au peuple d'Israël endeuillé. Nous sommes à vos côtés. On entendait Jean Messia, au fond, qui faisait un parallèle avec cet attentat et ceux qu'on a pu vivre en France. Est-ce que, au fond, ce qui s'est passé ce soir à Jérusalem-Est dépasse la question du conflit israélo-palestinien, Karim Abrik, et finalement, c'est une lutte tout autre et plus grande?
Je pense que déjà avec le conflit israélo-palestinien, on en a déjà pas mal, déjà juste avec ça. Et effectivement, et si on revient aussi sur la question du Hamas qui n'a pas revendiqué, mais qui se dit, on va reprendre ici les mots quand même ici, là. Je l'avais ici. Ils disent que c'est une réponse, cette opération est une réponse aux crimes commis par les forces d'occupation à Jénine et une réponse naturelle aux actions criminelles de l'occupation. Moi, ça m'inquiète parce qu'effectivement, ça devient ce conflit qu'on ne peut jamais résoudre. Parce que si intrinsèquement, ça devient la réponse naturelle et qu'on questionne aussi toute la question des colonies et tout ça, bien, je veux dire, on ne s'en sort pas. Alors, la question de la désescalade, quand est-ce que vous voulez qu'on la pose? C'est impossible.
Et est-ce qu'au fond, ce conflit peut se déplacer en France?
Non.
Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences comme on a pu le constater?
Enfin, il faut tout faire pour qu'il se déplace le moins possible en France.
Il est déjà en France.
Mais si vous avez
des drapeaux palestiniens à chaque manifestation,
oui,
vous avez des
questions
de terrorisme islamiste, on le
connaît.
C'est
pour ça qu'il faut...
Il a fait des centaines de morts, donc bon, il est déjà là.
Ouais. Non, c'est pas le même... Pardon, moi je fais pas le... Entre la vague d'attentats islamistes qu'on a connue et ce qui se passe... Tragiquement, ce soir en Israël, je crois qu'il y a
une distinction.
Il y a une spécificité du conflit israélo-palestinien.
Il faut pas.
Elle est arrivée en France, mais ceux qui sont venus tuer le 13 novembre sur les terrasses et au Bataclan ne sont pas venus au nom. Oui. Du conflit israélo-palestinien.
Exporté sur la communauté juive de France.
Oui. Il faut tout faire pour l'éviter.
Moi, ce que je dirais, c'est mais en France, on a quand même le conflit lointain chez nous, israélo-palestinien, sert aussi de prétexte à un certain nombre de...
C'est vrai.
Aux salafistes, sert de prétexte aux frères musulmans, sert de prétexte à ceux qui tourneboule la tête des futurs terroristes dans le cadre du réseau, du terreau de ce terrorisme-là, sert de prétexte, comme d'autres prétextes d'ailleurs, pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir faire des actions de terrorisme et de les justifier comme ça aussi.
Enfin, excusez-moi,
ça arrive en France aussi, ça.
Mais c'est déjà pas là. Attendez, Mohamed Merah, quand il se fait photographier sur son scooter avec un drapeau palestinien,
Que je vous dis.
Mohamed Merah, il a quand même tué des enfants juifs. C'était un attentat terrible. Donc c'est quelqu'un qui agissait au nom d'une idéologie islamiste, mais il avait cette composante du conflit israélo-palestinien en lui. Et je pense que dans tout l'islam radical, je ne dis pas qu'il se résume au conflit israélo-palestinien, mais ce conflit est omniprésent.
Comme pour l'Irak Kacher, d'ailleurs.
Exactement. Attendez, mais
il y a un certain nombre de justificatifs dans leur tête.
Il y a des choses très symboliques. Par exemple, la montée en puissance de l'antisémitisme en France, depuis Yann Halimi jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à Mireille Kahn.
Et une communauté juive qui doit quitter certains quartiers,
régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une importation du conflit israélo-palestinien. Il y a une haine du juif en France qui émane de certaines immigrations et qui est inspirée, je ne dis pas qu'elle se résume, mais qui est inspirée par le conflit israélo-palestinien.
Il y a un certain nombre de justificatifs.
Jean-Michel Fauvergue et Philippe Guillaume.
Il y a effectivement un certain nombre de justificatifs aux attentats terroristes et à la terreur qui est chez nous, d'ailleurs, aussi, de cette manière-là. Il y a celui-là, effectivement, le conflit israélo-palestinien qui nous est servi, qui est servi par ces gens-là et pour justifier ces actes horribles. Il y a aussi le fait que de l'égalité de l'homme et de la femme en France qui est défendu, l'état de droit que nous sommes, le fait que nous soyons allés au Levant bombarder un certain nombre de cibles, je le disais tout à l'heure, tout ça, ce sont des justificatifs à l'action. Ils n'ont évidemment pas lieu d'être, parce que l'action terroriste n'aurait normalement pas lieu d'être. Je veux dire, c'est à un certain moment, on ne résout pas nos problèmes, y compris les problèmes d'escalade d'ailleurs, y compris des problèmes d'escalade qui au départ sont des escalades verbales, sont des postures des uns et des autres, ça se résout normalement jamais par un attentat terroriste. Mais les terroristes qui font ces attentats-là, c'est parce que en eux-mêmes, ils ont cette espèce de déformation, de sectarisme, de haine de l'autre que l'on retrouve partout dans le monde,
Philippe Guibert, on vous a pas entendu.
Je dirais presque que l'antisémitisme qu'on trouve dans le monde musulman dépasse même le conflit israélo-palestinien.
Ah bah c'est évident.
C'est un antisémitisme culturel qui a
religieux,
qui a plein de causes, dont le conflit israélo-palestinien qui a pu servir de prétexte. Comme vous le disiez, mais il a des racines encore plus lointaines et encore plus profondes. Donc, le conflit israélo-palestinien, je pense que c'est de la responsabilité de tous, qu'il ne soit surtout pas, plus qu'il ne l'est déjà trop, importé dans notre pays. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, si je peux terminer, je trouve qu'il faut qu'on soit attentif à ce qu'on dit aussi, nous, en tant que chroniqueurs ou personnes qui sommes sur des plateaux télé.
Je suis heureux que Philippe Guibert annonce ce soir qu'il entend lutter, en tout cas militer pour une réduction drastique de l'immigration, puisqu'on sait très bien que c'est par certaines immigrations que la problématique de l'antisémitisme arrive en France.
Vous avez une capacité à rendre le sujet.
Philippe Guibert n'est pas d'accord. Écoutez,
si vous êtes en train de me dire que la majorité de l'antisémitisme en France provient d'anglais ou de scandinaves ou même de la population française de souche, vous allez faire rigoler la France entière. Tout le monde sait très bien.
J'ai jamais dit ça.
D'où vient la résurgence de l'antisémitisme en France? Qu'est-ce qui provoque le départ, l'alia de centaines de milliers de juifs depuis des années en Israël? C'est pas l'apparition de groupuscules nazis ou de skinhead. On sait très bien que c'est parce que dans certains quartiers qui ne sont plus français, les juifs ne se sont plus chez eux. Et ils sont même agressés, attaqués, etc.
Il y a eu un record d'alias d'ailleurs après les attentats.
Exactement, mais attendez, il y a une double alias. Il y a l'alias vers Israël et puis l'alias interne. C'est-à-dire que vous avez des quartiers qui se vident de leurs juifs parce que les juifs émigrent en quelque sorte à l'intérieur vers d'autres quartiers où ils se sentent plus en sécurité.
Quelle est l'origine de ça?
Quel est le carburant de tout cela? C'est bien l'antisémitisme qui est présent dans certaines immigrations arabo-afro-musulmanes, disons les mots, c'est chez certains, et qui provoque effectivement le départ des juifs et la peur des juifs.
Vous savez, Jean-Michel.
Vous savez, Jean-Messia, je pense que l'antisémitisme et autres types de racisme, de xénophobie est présent un peu partout. Alors pourquoi pas vous êtes sur un de vos chevals de bataille sur l'immigration, pourquoi pas? Allons-y.
Pas du tout, mais c'est juste réel en fait.
La France s'est suffi à elle-même dans son histoire pour nourrir un antisémitisme.
Non, mais c'est faux.
Un antisémitisme
dans l'histoire.
Attendez, c'est faux. Je suis d'accord avec vous. Mais l'antisémitisme, j'allais dire de souche, comme d'ailleurs l'homophobie, etc., ce sont des mots que la France avait terrassés, le peuple de souche a terrassé depuis longtemps.
Allez-y doucement quand même. Vous êtes trop optimiste.
Il est tout à fait résiduel aujourd'hui. Vous trouvez
pas d'aujourd'hui, je vous parlais de l'histoire.
Disons que ces problèmes ont été très largement et très majoritairement réglés au sein de la population française de souche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un antisémitisme résiduel epsilonesque qui réside, mais aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer, si vous voulez, sur la poussière et s'aveugler sur la montagne. Aujourd'hui, la majorité de l'antisémitisme, encore une fois, il ne provient pas de la population française de souche, il est présent dans certaines immigrations qui continuent d'arriver sur notre territoire et qui continuent à alimenter ça.
Entendu, Jean-Monsieur. Karim Abrik, est-ce que, selon vous, cette tension qui aujourd'hui en Israël, est-ce que ce conflit israélo-palestinien, plus précisément ces tensions après cet attentat, est-ce que vous craignez export en France?
Mais en fait, je pense effectivement c'est sur la question de la résurgence de cet antisémitisme. Je pense que c'est plutôt sur cette question-là que certains se questionnent, sur des attaques qu'on a pu voir. Donc, je pense que l'inquiétude est plus là-dessus, sur des tensions peut-être intercommunautaires, je ne sais pas. Mais cela dit, le conflit en tant que tel, les attentats en tant que tel, je pense que personne n'est à l'abri. On a vu, malheureusement, des fois ce sont des lieux de culte qui ont été ciblés, des fois ce sont des gens qui ont été ciblés. J'ose espérer que il y a quand même ce conflit, comme on le disait tout à l'heure, qui a ses propres spécificités aussi, sur la question aussi des alliances avec les autres pays. Oui. Donc ça, quand même, ça appartient à ce conflit-là. Par ailleurs, comme on le disait, sur la question de l'antisémitisme, c'est quand même réel. Je pense que plusieurs membres de la communauté juive qui vont vous dire qu'il y a une réalité et il faut en tenir compte aujourd'hui.
Harold Diman, Anthony Blinken, on le sait, sera en Israël à partir de mardi prochain. Est-ce que la communauté internationale aujourd'hui a des leviers d'action, peut agir? À quoi s'attendre?
Les États-Unis de Joe Biden reviennent à un modèle antérieur où il y avait un peu d'équidistance entre la partie israélienne et la partie palestinienne. Bon, avec les années, ça penche quand même beaucoup plus vers Israël, mais c'était le cas, par exemple, sous Obama ou sous Clinton. Et ils essayent de rééquilibrer. Mais je ne vois pas quel levier il peut bien avoir aujourd'hui. Le Biden n'a pas réinstallé l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, alors que Donald Trump l'avait mis à Jérusalem. Et Biden a repris à son compte les accords d'Abraham, qui sont l'œuvre de Donald Trump et de son gendre. Donc, il n'a pas vraiment brisé grand-chose. Et Anthony Blinken, il va négocier quoi? Parce que vu du côté palestinien, il ne représente pas le justicier ou, si vous voulez, le sage équidistant qui va remettre les turbulents israéliens et palestiniens sur le droit chemin. Je pense que sa mission est déjà plombée avant même son arrivée.
D'autres réactions, celle de Gérald Darmanin, il y a quelques minutes, du ministre de l'Intérieur. On l'aura d'ici quelques instants, une réaction par tweet. Il est 23h28. On ira dans un instant, on retournera à Jérusalem, voir s'il y a eu des informations, les dernières informations. Je vous le rappelle, après cet attentat, 7 personnes ont été tuées. Il était un peu plus de 20 heures, aux alentours de 20 heures, plusieurs dizaines de blessés par balle. Jean-Michel Fauvergue, on peut le dire, une attaque finalement à mode opératoire connu, oui. Et pourtant très difficilement détectable.
Oui, c'est un mode opératoire connu d'un très jeune terroriste agresseur qui est radicalisé, puisqu'il est terroriste, qui a une arme automatique et qui... soit pénètre, soit attend à la sortie de la synagogue et va tirer sur la foule. Alors c'est évidemment, il fait de nombreuses victimes parce que il a une arme automatique, parce que la foule est rassemblée et c'est quelque chose d'affreux. C'est difficile à anticiper, surtout si ce jeune il est palestinien, je crois, hein, c'est ce jeune palestinien est à l'intérieur même du pays, et un attentat endogène comme ça, c'est difficile parce que on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas les signaux préparatoires et les services de renseignement sont aveugles sur une action isolée de ce type-là, et voilà toute la difficulté, et ça fait énormément de victimes. Alors maintenant, le but des enquêteurs, des services de renseignement, c'est de savoir, en exploitant les caméras, la téléphonie, les témoins, en faisant des perquisitions, c'est de savoir s'il avait des complices, s'il avait préparé où est-ce qu'il s'est procuré l'arme, etc., etc.
Karima, on vous écoute dans un instant, il est 23h30, on fait juste un point sur les dernières actualités. On ira ensuite à Jérusalem retrouver Nathalie Sosma-Ofir, on fera un dernier tour de table. Il nous reste un peu plus de 7 minutes dans cette émission. On fera un point complet sur les informations dont nous disposons à 7h. En attendant, le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
attentat à Jérusalem-Est, cette attaque le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah est particulièrement abjecte. Déclaration du Quai d'Orsay. 7 civils sont morts lors de la fusillade dans le quartier de Neve Yaakov. L'assaillant a été abattu par des policiers. L'attentat a également été condamné par Washington et par le secrétaire général de l'ONU. Dans les Vosges, après la mort du jeune Lucas le 7 janvier dernier, 4 mineurs vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Ils ont été convoqués devant le tribunal pour enfants d'Épinal. Il s'agit de 2 filles et 2 garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas. Ils ont admis avoir proféré des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Le 80e congrès du Parti Socialiste a débuté à Marseille ce vendredi dans une ambiance délétère après la réélection contestée du premier secrétaire, Olivier Faure, qui espère notamment que le PS soit en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites pour montrer l'utilité de la gauche. Le congrès au Palais du Pharo se terminera dimanche.
Merci Isabelle. Les prochains points sur l'actualité, ce sera à minuit. Juste avant d'aller faire un dernier détour par Jérusalem, Karim Abrik, vous vouliez revenir sur cette question qu'on a soulevée ce soir. Est-ce que le conflit israélo-palestinien, est-ce que ces tensions après ce terrible attentat, ce conflit peut-il être exporté en France?
Mais en fait, c'est la question. Moi, je me disais sur cette jeunesse, on parle de la jeunesse aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. C'est cette question de l'importation aussi de ces conflits et des idéologies. On l'a vu, je change, vous allez comprendre. Par exemple, si on pense à Black Lives Matter ou des choses comme ça, il y a eu effectivement, ça s'est répandu un peu. On regardait au Canada, on regarde ici. Donc, sur ces questions-là, je pense quand même qu'il peut avoir cet effet dans les plus jeunes générations de s'approprier des conflits qui se passent à l'autre bout du monde, mais on se sent connecté, on sent cette proximité. Alors, peut-être par ce biais-là, effectivement, il peut avoir un certain risque à ce sujet, je dirais.
Alors, je vous le disais, on va tout de suite reprendre la direction de Jérusalem. On va retrouver Nathalie Sosna-Ophir. Nathalie, vous suivez pour nous sur place l'évolution de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir à cette heure?
Eh bien, le bilan, bien sûr, il fait état d'au moins 7 Israéliens tués, 5 hommes, 2 femmes et 2 mineurs. Alors, il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 2011. C'était dans un autobus qui se rendait à Eilat. Alors, ce bilan est encore provisoire, étant donné que plusieurs blessés se trouvent dans un état grave. L'attentat a été perpétré à l'arme automatique, près d'une synagogue, dans un quartier de Jérusalem-Est, le quartier Neve Yaakov. C'était pendant les prières de l'entrée du Shabbat. Et c'est un Palestinien, un jeune Palestinien du camp de réfugiés de Chouafat, très près du lieu de l'attentat, qui est arrivé en voiture et qui a ouvert le feu. Il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir et tout semble indiquer ce soir qu'il a agi seul. Alors cet attentat intervient dans un contexte de vives tensions. Hier matin, l'armée israélienne effectuait un raid dans la ville palestinienne de Jenin. 9 Palestiniens avaient été tués lors d'un échange de tirs. Alors pour Jérusalem, il s'était agi de contrecarrer un attentat imminent du djihad islamique contre des civils israéliens. En représailles, hier soir, 7 roquettes étaient tirées depuis Gaza en direction du sud d'Israël et Tsahal avait riposté cette nuit en ciblant des cibles du Hamas dans l'enclave palestinienne. Plusieurs médiateurs depuis hier, égyptiens et européens, tentaient de désamorcer les tensions. En vain, l'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Bien sûr, une décision qui sera évoquée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui arrivera en Israël et à Ramallah dans trois jours. En attendant, les médias israéliens parlent d'un massacre. Le niveau de vigilance a été relevé dans la capitale, bien sûr, mais aussi à travers tout le pays. Et déjà, il y a tout juste quelques minutes, des Palestiniens jetaient des pierres sur des voitures israéliennes sur les routes de Judée-Samarie. Dans les prochaines heures, le Premier ministre Netanyahou réunira les responsables de la sécurité. Il va s'agir d'évaluer la situation et de décider de la riposte à donner à ce terrible attentat qui ne sera sans doute pas passé sous silence. Nous allons réagir avec sang-froid et détermination, a déclaré le Premier ministre, qui a demandé aux citoyens à ne pas se substituer à la loi et à ne pas faire justice. Et quant au ministre de la Défense, Yaakov Gantz, qui se trouve actuellement aux États-Unis, il a bien sûr écourté sa visite et rentrera cette nuit par le tout premier avion. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure de cet attentat absolument terrible.
Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Nathalie Sosna Ofir en direct, en liaison avec nous depuis Jérusalem après cette effroyable attaque dénoncée par Paris également ce soir. Peut-être un dernier mot à Harold Iman sur le contexte général. On le sait, des tensions très fortes ces derniers jours, ces derniers mois, et le gouvernement israélien qui va réfléchir maintenant une riposte. Hein.
Certainement, depuis le 3 janvier, ça ne cesse de faire un va-et-vient. Il y a des préparations d'attentats de la part des deux groupes palestiniens que sont le Hamas et le djihad islamique. Le gouvernement israélien frappe, l'armée israélienne frappe. Ensuite, il y a d'autres attentats, des attentats à l'arme blanche, des tirs, des heurts. Bref, l'escalade jusqu'à l'attentat de sur le camp de Jenin avec 9 morts hier. Bref, tout ceci, c'est une espèce de fuite en avant. Donc, ce n'était pas nécessairement une grosse surprise qu'un attentat de ce type arrive. Peut-être que la surprise, c'est le retour de l'attentat à la Kalachnikov dans la rue. Ça, c'était moins connu les derniers jours, mais on a vu que le Hamas et le djihad islamique ont encore des armes, ils ont encore des soldats, ils ont encore une capacité de bouger. Et ils intimident maintenant l'autorité palestinienne, qui, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec l'attentat, et même les Arabes israéliens, un de leurs grands partis, le RAM, a dénoncé l'attentat il y a quelques minutes, ils sont obligés de un petit peu ne pas se désolidariser de ce mouvement anti-israélien très fort.
Et on arrive au terme de cette émission. Un grand merci à tous ce soir de nous avoir permis de s'éclairer hein, sur ce terrible attentat qui a eu lieu donc à Jérusalem-Est. Merci à vous Jean-Michel Fauvergue, merci Karim Abric, merci Harold Iman, merci beaucoup Philippe Guibert,
merci à vous
Jean Messia. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Prochain point, ce sera à minuit avec Simon Guilain. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.